Session d'initiation à la théologie par le Père Philippe, la Trinité, le 17 mars 1989.
N'oubliez pas que cet après-midi, à 15h15, je répondrai aux questions que vous vous posez. Alors, notez-les quand vous écoutez le cours. Il y a toutes sortes de questions, surtout par rapport au cours, mais des questions théologiques, quoi. Ça peut déborder, hein. Alors, notez vos questions. Puis alors, si vous pouvez les mettre sur la table à 15h, le frère Marie-Dominique les lira et ordonnera ces questions pour que ça puisse se faire à 15h15. Bon, je continue cette purification que fait saint Thomas à propos de la procession. Et vous voyez, saint Thomas note, c'est ça qui est intéressant, si vous lisez attentivement cet article premier, toutes les erreurs proviennent d'une fausse conception de la procession. Donc, erreur philosophique. C'est pas étonnant, vous voyez. Dieu a pris notre langage. Dieu aurait pu inventer un langage particulier pour le croyant. Ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. Le croyant, en tant que croyant, aurait reçu immédiatement, par la foi, un langage qui serait propre aux croyants. On se serait enrichi d'une langue en étant croyant, et d'une langue divine. Dieu n'a pas voulu ça. Il a pris un moyen pauvre, toujours. Il a pris le langage de tout le monde. La langue hébraïque, la langue grecque, la langue latine, et maintenant, de plus en plus pauvre, la langue vulgaire. La langue de tous, depuis la Pentecôte. Ils sont tous entendus dans leur langue. En prenant le langage de tous, Dieu n'invente pas une nouvelle philosophie. Dieu ne modifie pas notre intelligence par la foi. Si on est un imbécile et qu'on croit, on restera un imbécile croyant. Ça existe. Hélas, ça existe. Si on est très intelligent et qu'on reçoit la foi, on essaiera de ne pas être orgueilleux et de mettre notre intelligence au service de la foi. Mais la foi ne nous donne pas l'intelligence. Elle nous donne infiniment plus. Mais elle respecte le frère aîné. Le frère aîné, c'est l'intelligence. C'est pour ça que de temps en temps, il n'est pas très content. Parce que le frère aîné boude assez facilement dans l'écriture. Le frère aîné, c'est l'intelligence que la foi respecte. Et que la foi respecte d'une manière telle qu'elle veut que ce frère aîné, l'intelligence, aille jusqu'au bout de toutes ses exigences. Et la foi se sert de ce frère aîné. Ici, nous en avons un exemple merveilleux. Nous savons, dans la foi, que le mystère de la très sainte Trinité nous transcende, nous dépasse infiniment. C'est le mystère de la vie intime de Dieu. C'est le mystère de la vie personnelle de Dieu. C'est le mystère secret de Dieu. Et Dieu veut nous introduire dans ce mystère. Et nous y introduit progressivement. Il a d'abord voulu fixer en nous d'une manière très très forte, le mystère de son unité et de sa simplicité. Et ensuite, il nous révèle cette transcendance mystérieuse que dans la simplicité et l'unité, il y a trois personnes. C'est curieux, hein. On pourrait se demander s'il n'aurait pas mieux fait de faire autrement. Il faut toujours être très sensible aux conseils qu'on pourrait donner au Saint-Esprit. Saint-Esprit aurait dû faire autrement, quoi. Il aurait dû d'abord révéler les trois. Et une famille en Dieu. Non, parce qu'on serait resté, justement, dans ce psychologisme. Et Dieu veut qu'on aille beaucoup plus loin. Qu'on aille beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que c'est l'unité d'abord. La simplicité absolue. Et dans cette simplicité, ce mystère des processions. Dans la simplicité, cette fécondité qui suit les processions. Alors, tout de suite, saint Thomas prend l'expression la plus nette de l'Écriture. Et cette expression la plus nette, c'est dans saint Jean. C'est l'évangile de Jean qui est l'évangile le plus trinitaire. Saint Paul l'est aussi. Mais c'est l'évangile de Jean qui l'est le plus trinitaire. C'est là où le mystère de la très sainte Trinité est explicité de la manière la plus forte. Et c'est Jésus qui nous introduit dans le mystère du Père, par le mystère de sa filiation. Et le mystère de la filiation, c'est un mystère de procession. Ego, ex deo, processi. Je procède du Dieu, du Père. Moi, je procède. Ça va très loin, vous savez. Quand on, dans la foi qu'on reçoit cela, je comprends que le théologien comprenne que c'est la seule voie d'accès. La procession. Alors, il interroge ses prédécesseurs, il interroge les hérétiques, c'est toujours utile. Opportet esse hérèses. Saint Paul nous dit ça. Il faut qu'il y ait des hérétiques. C'est pas drôle pour eux, mais c'est comme ça. Dans le champ de bataille, il faut qu'il y ait des gens qui prennent toujours la déviation au mauvais moment. Ils se trompent. Et ça nous éclaire. Vous êtes attentifs aux hérésies. Le théologien est attentif pour ne pas tomber dans le panneau et pour voir que c'est toujours les mêmes hérésies qui se répètent. Si on connaissait mieux les hérésies du début de l'Église, on ne recommencerait pas maintenant. Mais c'est les mêmes, avec des nuances particulières. La sauce change, mais la substance de l'hérésie reste la même. La sauce change, oui, oui. C'est la sauce psychologique aujourd'hui. Avec du piment. C'est très pimenté. Très, très. Parce que comme il y a eu des vieilles, il faut les rajeunir. Alors on voit l'originalité. On doit être attentif à ça et comprendre comment l'Écriture, parlant de la procession, qui est une action, on voit tout de suite deux types d'actions. Une action avec un fruit extérieur. Ad extra. Une action avec un fruit immanent. Et je vois tout de suite, si j'ai un peu de philosophie, que l'action immanente, c'est une action plus parfaite que l'action extrinsèque. Pourquoi ? Parce que l'action extrinsèque implique une division. L'action transitive implique une division. L'œuvre n'est pas l'artiste et ne peut pas être l'artiste. L'artiste ne peut pas s'identifier à son œuvre s'il est un artiste. Quelquefois, l'artiste tombe dans certains défauts psychologiques et s'identifie à son œuvre. Alors si on critique son œuvre devant lui, c'est comme si on le critiquait. La susceptibilité des artistes. Ils s'identifient à l'œuvre. Alors il faut leur dire, mais non, écoutez, vous êtes bien plus grand que votre œuvre. Parce que l'œuvre implique une division. Donc je ne peux pas l'appliquer à Dieu à cause de la simplicité. Mais il y a des actions immanentes qui n'impliquent pas de division. Quand j'aime, je porte en moi celui que j'aime. Il est présent, au plus intime de moi-même. Pas réellement tel qu'il existe, mais d'une autre manière. Intentionnellement, je le porte en moi. Il y a donc un fruit à cet amour, un fruit immanent qui n'est pas séparé de celui qui aime, qui demeure dans celui qui aime, qui est distinct de celui qui aime, mais qui n'est pas séparé. Quand je pense profondément à quelqu'un, je porte en moi cette personne, je la conçois, je la pense en moi. Et cette personne est présente au plus intime de mon intelligence d'une manière intentionnelle. Je peux donc dire que l'action immanente n'implique en elle-même aucune imperfection. Il y a un article merveilleux de saint Thomas là-dessus. Que tout le monde puisse le lire, dans le Contrat Gentiles, sur les différents degrés de l'action immanente. Il faudrait vous donner ça comme petit souvenir. Vous auriez du très beau saint Thomas dans le Contrat Gentiles, sur les actions progressives, et plus l'action est parfaite, plus elle est immanente. Et plus le fruit est immanent. Donc il n'y a plus de division. La simplicité demeure. Vous voyez, il y a là la possibilité de comprendre comment celui qui aime et celui qui pense peut rester simple dans sa propre personne tout en portant un autre en lui. On ne se divise pas quand on aime. On ne se divise pas quand on pense. Il fallait trouver ça. Vous voyez, la voie d'accès. Par où je peux, à partir de mon expérience philosophique, pousser le plus loin possible, trouver ce qu'on appelle en théologie, selon saint Thomas, une notion analogique. Une notion analogique qui, en elle-même, n'implique aucune imperfection, qui peut donc être attribuée à Dieu. Et ceci se distingue des symboles métaphoriques. Je m'arrête un instant là-dessus, hein, pour que vous compreniez bien ce qu'est la théologie de saint Thomas et la grandeur de cette théologie. Et je crois qu'on ne peut pas faire une autre théologie scientifique. Je crois. C'est ça qui rend furieux les théologiens, parce que saint Thomas a vécu avant eux. Ils ne peuvent pas être originaux, là. Très gênant d'être pas être original. Tout dépend du but. Si vous cherchez la vérité, vous êtes très heureux que quelqu'un ait découvert cette vérité avant vous. C'est vrai. Moi, je suis très heureux que un Motadiar ait découvert avant moi le lieu, le petit chemin qui me permet d'aller très haut. Je le suis. Ça me gêne pas, parce que je cherche le sommet. Si je cherche l'originalité pour l'originalité, c'est très gênant de mettre mes pas derrière les pas de quelqu'un d'autre. Il n'y a plus aucun intérêt. Si vous cherchez la vérité, au contraire, vous vous servez de celui qui est avant vous, qui vous sert de sycomore. Vous montez dessus et vous voyez plus loin. C'est merveilleux. Saint Thomas, c'est notre sycomore. Nous sommes tout petits à côté de lui. Tout petits, on ne voit pas. C'est-à-dire que si vous pouvez monter dessus. J'avais pas vu ça. Mais si on cherche la vérité, on est heureux que d'autres l'ont découvert avant nous. Si on cherche l'originalité, d'autres choses. On cherche ce que quelqu'un n'a pas encore dit ça. C'est comme ça que ce sont les thèses de théologie. C'est terrible, hein. Ça dévie tout. C'est une œuvre d'art. Le théologien est un contemplatif. Il n'est pas premièrement un artiste. Il est un contemplatif. Donc il cherche la vérité. Saint Thomas l'a dit avant lui. Tant mieux, je me sers de saint Thomas. Et je n'hésite pas de le dire. Parce que je sais qu'avec lui, je suis en sécurité et j'irai beaucoup plus loin que si je ne l'avais pas. Ça, je monte dessus. Bon, alors, réflexion un instant sur ce qu'on appelle en théologie scientifique une notion analogique qu'on peut attribuer à Dieu, dont on peut se servir, et le symbolisme métaphorique. Qu'est-ce que c'est que la procession? La procession est une action. Or, l'action est ou transitive, je l'ai déjà dit, ou immanente. En réfléchissant sur l'action transitive, je dis toute action transitive implique une division. L'action immanente n'implique pas de division. Elle a un fruit immanent. Elle peut avoir un fruit immanent. Donc elle n'implique pas de division. Si elle n'implique pas de division, elle n'implique pas d'imperfection. C'est une qualité de pensée. C'est une qualité d'aimer. Chaque fois que vous pensez, vous êtes plus qualitatif. Vous devenez meilleur. Chaque fois que vous aimez, un véritable amour. Pas nécessairement un amour passionnel. Un véritable amour. Un amour spirituel à l'égard d'un bien qui est mon bien. Vous vous qualifiez. Un homme qui n'a jamais pensé, qui n'a jamais aimé, est-ce que c'est une personne du bien? C'est un robot. Pas comme je te pousse. C'est un robot. Tandis qu'un homme qui a pensé, qualitatif. Une action immanente n'implique pas d'imperfection. Elle est qualitative. Elle me qualifie. Évidemment, mon action immanente de penser et d'aimer sont limitées. C'est moi qui pense. Mais si Dieu pense, le philosophe, le vieil Aristote, disait, Dieu, nécessairement, il vit. Sa vie est purement spirituelle. D'une vie de pensée et d'amour. Un pur philosophe, il dit ça. Donc, moi aussi, je peux dire l'action immanente, c'est l'action vitale par excellence et l'action spirituelle par excellence. C'est l'action de l'intelligence et de la volonté. Ça n'implique aucune imperfection. Je peux donc la transposer en Dieu. Dieu pense. Dieu pense à qui? Aristote s'était posé la question. Dieu pense à qui? Mais Dieu pense, ne peut penser qu'à lui. Parce qu'il est. Il est le premier. Il se pense, il se connaît, et comme il est parfait, il se contemple. Et c'est pour ça qu'Aristote disait que Dieu, c'est la pensée de la pensée. Et ça, un vrai philosophe peut le dire. Il n'y a que se servir d'Aristote, son sycomore. Puisqu'Aristote l'a dit, prenez là le bien où il est. Je peux très bien réfléchir que Dieu nécessairement vit d'une vie spirituelle, d'une vie contemplative. Il est l'amour de l'amour, il est la pensée de la pensée. C'est magnifique ça. Vous voyez qu'en disant ça, Aristote nous donne une notion analogique tout proche de la révélation. Qu'ajoute la révélation ? C'est que la pensée de la pensée a un fruit. Le verbe. En grec, le logos. Le verbe. Il y a un concept. Il y a un fruit. Voilà ce que me dit la révélation. Vous voyez donc que ce fruit demeure immanent, non pas séparé. Il ne divise pas la simplicité. Évidemment, je ne pourrais pas le dire s'il n'y avait pas la révélation. Et parce que la révélation me dit qu'il y a une procession en Dieu, qu'il y a un fruit dans la pensée de Dieu. Je dis oui, et oui, c'est tout à fait normal. Une pensée parfaite, une pensée infinie. Il n'y a pas de limite dans la pensée de Dieu. Il n'y a pas de limite dans la contemplation de Dieu. Puisque cette pensée est infinie, absolument parfaite, absolument simple. Elle a un fruit immanent à sa propre pensée. Et ce fruit immanent à sa propre pensée, c'est ce que la révélation nous révèle. C'est le verbe. Voyez comment une philosophie réaliste, comme celle d'Aristote, qui appelle un chat un chat. Parce qu'Aristote aime d'appeler le chat, et le chien le chien, et l'homme l'homme. Une philosophie réaliste constate qu'à un certain moment, nous pensons. Ouais. Quand vous suivez un cours, surtout un cours de théologie, ou un cours de philosophie, vous pensez. C'est ce que disait un bon théologien, n'est-ce pas ? Il renversait ce que Descartes disait : je pense, donc je suis. Alors il disait : je suis, donc je pense. Et le suis n'avait pas tout le même sens. Mais je suis un cours, donc je pense. Dès que vous suivez celui qui pense, vous pensez. Petite remorque par derrière. Alors si ça va très très vite, vous dites, ah, ça va craquer, je laisse les autres tomber. Mais au fond, on suit. Et alors la petite remorque suit. Je pense. C'est extraordinaire de voir que le philosophe peut arriver à voir qu'il y a une action immanente en nous de penser. Quand vous méditez, quand vous contemplez, quand vous faites oraison, tout ça se passe à l'intérieur. Jusqu'au moment où ça flambe, à ce moment-là, faites attention. Mais autrement, c'est une pensée à l'intérieur. Personne ne voit rien. Et il y a un fruit intérieur. Le fruit, cette pensée. Si donc Dieu pense, contemple, et qu'il m'est révélé qu'en Dieu, il y a une fécondité, une procession qui aboutit à un fruit. Je dis que le premier fruit de cette procession divine, de cette action immanente en Dieu, qui est l'action d'intelligence, c'est le verbe. Oui, bien, tout ça repose sur la foi. L'existence du verbe comme distinct du Père qui contemple, c'est la foi seule qui me lie. Et je vois qu'il n'y a pas de contradiction. Et non seulement qu'il n'y a pas de contradiction, j'allais presque dire, c'est normal. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. C'est normal. Et le convenience, c'est normal quand Dieu, une pensée infinie, une contemplation infinie et un fruit. Voyez l'analogie. Cette notion, ce qu'on appelle une notion, la raison, cette notion d'action qui est purifiée de tout ce qui est limite pour retrouver dans cette action immanente quelque chose absolument parfait que je peux appliquer à Dieu. Tandis que la fécondité, je dirais, c'est un symbole. La fécondité, pour moi, je n'ai qu'un seul exemple de vraie fécondité. C'est la fécondité de la procréation. Pourquoi ? Parce que la fécondité implique que ça se termine à un fils. Je dirais le père engendre le fils. Le père et la mère engendrent un enfant. Ce qui dit fécondité dit premièrement cette relation d'un père, d'une mère à son fils, à son enfant. Dans le langage habituel des hommes, vous pourrez transposer ce terme en disant ah mais oui, oui mais il y a la fécondité de l'artiste. Pas du tout la même. Parce que la fécondité de l'artiste, c'est une œuvre qui ne vit pas. C'est ce que faisait Michel-Ange avec son Moïse. Quand il a terminé, tapé sur les pieds. Maintenant, vie. Il est resté sans vivre. L'artiste fait une œuvre sans communiquer la vie. Le père de famille, il communique la vie. Mais il n'a pas modelé la tête de son fils. C'est très gênant pour un artiste. Il n'a pas modelé la tête de son fils. Il ressemble à l'arrière-grand-oncle dont on ne parle pas. Il a une gueule particulière. Il est admirable pour la mère, mais tous les autres disent... On n'ose rien dire. Allez, le père de famille communique la vie, mais il ne communique pas l'individuation dans ce qu'elle a de tout à fait particulier. C'est extraordinaire, ça. Mais il communique la vie. Et la fécondité, c'est la communication de la vie. Donc, c'est la relation du père et du fils qui reste. Une communication limitée qui est très belle, c'est la fécondité dans l'ordre de la vie. C'est une notion qui reste liée à des limites. La vie végétative. Seule la vie végétative est vraiment féconde. Alors je ne peux pas la transposer directement à Dieu. Mais je peux, puisque c'est métaphorique, je peux dire ah, le verbe fruit de la contemplation, il est en Dieu véritablement le Fils. Je me sers donc en second lieu de ce symbolisme du Fils et de la fécondité. Le verbe procède de la contemplation du Père, ce verbe, il est vraiment une personne distincte de sa source. Mais il est une véritable personne. Ce verbe, il est donc Fils. Voyez comment cette seconde analogie je m'en sers en second lieu en la purifiant. Non pas en premier lieu, mais en second lieu. Mais je m'en sers. Et si j'en servais en premier lieu, je ne pourrais pas la purifier. C'est là toute l'astuce du théologien, vous voyez ? C'est que toujours, toujours, le théologien se sert de deux analogies. L'une, plus parfaite, l'autre, moins parfaite. Et il les ordonne. Et c'est là où on voit le génie du théologien. Un petit théologien ne les ordonnerait pas. Il partirait de la fécondité, puis bon, ce serait de la mélasse. Tandis qu'un vrai théologien se sert toujours de ces deux analogies. La possession, le fils, la fécondité. Il y a même une troisième analogie dont saint Thomas ne se sert pas, qui est celle du pain. Le pain de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le pain ? Moi, je suis le pain de Dieu.
Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une quatrième lumière ?
Non. Et du côté, la lumière de la lumière. Et vous voyez, la lumière est avant tout la simplicité de Dieu. C'est l'intelligence. Ça se ramène au verbe. C'est pas une nouvelle. Tandis que le pain, chapitre 6 en saint Jean. Le pain de Dieu. Et vous comprenez, c'est la troisième fécondité. Dans l'homme, il y a possibilité de trois fécondités. Cherchez bien, vous n'en trouverez pas d'autres. La fécondité selon la chair et le sang. Ce que Jésus dit à Nicodème. La fécondité de l'intelligence. Et la fécondité de l'artiste. L'artiste, quand il est inspiré, il réside une œuvre magnifique. Quelle est l'œuvre de toutes les œuvres, la plus simple de tout? C'est faire du pain. On ne sait plus faire du pain aujourd'hui. Hein. Faire du pain. Et du vin. C'est les deux œuvres par excellence. Le bon pain et le bon vin. C'est les deux œuvres. C'est curieux que l'Esprit Saint se sert de ces trois fruits. Le Verbe, le Fils, le pain. Évidemment, c'est encore plus symbolique. Vous voyez, c'est un père de l'Église qui dit que chaque fois que l'Esprit Saint veut révéler un secret particulièrement profond, il se sert d'un symbolisme plus grossier. J'aime beaucoup ça. Ça fait comprendre les mœurs de l'Esprit Saint. C'est chaque fois que vous révélez un secret très très intime, à un ami, vous chuchotez. Vous n'allez pas le claironner, quoi. Vous pouvez claironner sur la place publique tous les points de vue de la géométrie et de l'économie. Il n'y a pas de secret là-dedans. Tandis que le secret de votre cœur, vous ne pouvez pas le claironner sur la grande place, sur l'agora. Les théologiens aujourd'hui demandent un agora. Paraît-il qu'à Lyon, les théologiens demandaient l'agora. Ils puissent parler librement, ils n'ont plus de secret. Pauvres théologiens. Alors que toute la théologie nous fait entrer dans le secret. C'est très significatif ça, vous voyez. Ça prouve que l'aspect scientifique de la communication passe avant la contemplation. C'est très important de dire ça, parce que ça fait saisir ce qu'est justement les mœurs théologiques. Or, saint Thomas ne parle pas de ça. Saint Thomas ne parle que ces deux analogies, le Verbe et le Fils, et le pain, on peut en parler dans une théologie mystique pour comprendre que le Fils qui devient chair devient le pain, et que le Fils est la nourriture du Père, étant totalement donné au Père, et qui étant la nourriture du Père, la nourriture de sa contemplation. Le Fils et le Père vont être source de l'Esprit Saint. Donc ici, je laisse la question, je mets ça en nota bene, hein, pour la théologie mystique. Faut toujours aller plus loin que saint Thomas. On se sert de saint Thomas. Mais aujourd'hui, on a besoin d'une théologie mystique. Et donc, il faut comprendre ces trois grandes analogies. Les trois fruits que l'homme peut réaliser. Et ces trois fruits, si je les utilise selon un certain ordre, le Verbe, le Fils, le pain, ça m'aide à entrer plus profondément dans le mystère de celui qui procède du Père. La seconde personne de la très sainte Trinité. Elle est le Verbe, elle est le Fils, elle est le pain. Ça, c'est le secret dernier. Là, vous voyez bien comment le théologien découvre l'analogie du Verbe, du concept du Verbe. Et à partir de là, il se pose la question, j'y reviens parce que c'est très important, comment ce Verbe peut-il être dit Fils ? Parce que vous comprenez bien que Verbe, Fils et Pain, c'est pas moi qui les ai inventés, c'est dans l'Écriture. Commencement était le Verbe. In principio. Dans la source. Dans le Père. Et le Verbe. Et le Fils, il est dans le sein du Père. Et tout de suite, la fécondité. Il est dans le sein du Père. La source féconde. Et le Fils, il est le pain de Dieu. C'est dit chapitre 6, dans saint Jean. Donc, c'est la révélation qui nous révèle ces trois analogies. Le théologien, s'il a un petit peu le sens du théologien, je prends saint Thomas se sert immédiatement de la première analogie du Verbe, par le point de vue de la contemplation. Puis il se pose la question, vous n'avez qu'à regarder, hein. Il se pose la question, article 2, y a-t-il en Dieu une procession qui puisse s'appeler génération ? La procession du Verbe va s'appeler génération. Parce que la procession du Verbe, la procession de la seconde personne de la très sainte Trinité s'achève au Verbe, et ce Verbe, il est Fils. Et donc, on peut dire que cette procession contemplative, c'est une génération. Alors, on va expliquer ça. Pour moi, le fruit de mon intelligence n'est jamais mon Fils. C'est ce que j'appelle mon concept. Je conçois. Il procède en moi un Verbe intérieur, mais qui demeure toujours dans l'ordre intentionnel. exceptionnel. Alors je m'explique, parce que ça c'est un gros mot, intentionnel. C'est un terme que saint Thomas emploie souvent, et que... les théologiens, même d'aujourd'hui, toute la philologie emploie le mot intentionnalité. Intentionnel. Quand vous ouvrez un bouquin de théologie, vous verrez nécessairement le mot intentionnel ou intentionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Intentionnel. Quand je dis en moi, le concept, ce fruit de ma connaissance, c'est un verbe intentionnel. On a inventé ce mot-là. C'est vieux, c'est très vieux. C'est du Moyen-Âge. Donc c'est vieux. C'est un épice du Moyen-Âge. C'est beau. Enfin, ça fait partie des cathédrales. Le mot intentionnel. On a inventé ça pour montrer la différence entre la réalité substantielle qui existe comme une réalité première, autonome. Elle subsiste en elle-même. La réalité substantielle. De ce qui dépend d'un autre. Intentionnel exprime toujours quelque chose de second. Alors, réalité substantielle exprime toujours quelque chose de premier. L'intentionnalité exprime toujours quelque chose de second, c'est-à-dire quelque chose de relatif. Les deux extrêmes dans l'ordre philosophique, c'est la substance et la relation. Les deux extrêmes. Quelqu'un est relatif à un autre. Si vous êtes relatif, vous êtes toujours second. C'est pour ça qu'on n'aime pas tellement être relatif. Un disciple est relatif à son maître. Un fils est relatif. Aujourd'hui, combien de temps le fils supporte-t-il d'être relatif à son père ? Heureusement que le fils, la très sainte Trinité, éternellement supporte d'être relatif à son père. Il faut dire ça de temps en temps aux fils qui ne veulent plus être relatifs à leur père et qui sont des enfants prodigues. Ils sont tous des enfants prodigues. Ils veulent couper complètement. Ils veulent s'en aller. Ils n'acceptent plus d'être relatifs. On veut être autonome. On a vu ça comme absolu. Celui qui est intentionnel est relatif. Il est second. Quand je connais quelque chose, je suis relatif à ce que je connais. C'est pour ça que la connaissance me met dans cette attitude de dépendance. Quand j'aime, je suis relatif à celui que j'aime. Toute ma connaissance, toute mon affectivité est de l'ordre de l'intentionnalité. Intentionnel, c'est donc pour exprimer quelque chose qui est relatif à un autre, qui est dépendant, qui est comme le reflet, présent en moi. La connaissance est toujours seconde. J'existe avant de connaître. Bien évident. Mais de temps en temps, vous arrêtez. Vous êtes fatigué. Pourquoi on va s'arrêter ? Vous êtes fatigué. C'est étonnant. Hein. Deux cours de théologie dans la matinée, c'est beaucoup. Il est temps de les briser. Quand vous arrêtez de penser, vous existez encore. Quand vous dormez, vous existez encore. Substantiellement. Votre réalité ne s'identifie pas à votre intentionnalité. La connaissance. C'est très important quand vous êtes enseignant. Toute la question aujourd'hui de l'avortement, savoir si l'avortement est un crime ou pas un crime. Maintenant, il y a des théologiens qui ont inventé que c'était un crime, que, surtout, que si le petit fœtus pouvait commencer à parler, à connaître, tant qu'il ne pense pas au survivant. Je voudrais vis-à-vis des théologiens dire, quand vous dormez, vous n'êtes plus rien. Parce qu'ils ne pensent plus, ils dorment. Ils sont comme les petits fœtus. C'est la vie végétative, fondamentalement. L'intentionnalité est seconde. Elle n'est pas mon être substantiel. Elle provient de mon intelligence et de ma substance. Elle provient de moi. Elle n'est pas de première. Eh bien, ma connaissance est toujours intentionnelle. Mais en Dieu, en raison de sa simplicité, l'intentionnalité n'existe pas. Tu es un être substantiel, premier, absolument simple. Et donc, le fruit de la contemplation de Dieu est sa propre substance. Et c'est pour ça que ce fruit de sa contemplation peut être son fils. Parce qu'il est substantiel. Reviendront là-dessus. Mais ça, c'est très beau. Mais là, je touche le mystère. Je ne peux pas le conclure. Et c'est ça le mystère. Quand Dieu, tout est absolument simple et tout est substantiel. Et donc, si en Dieu, il y a un fruit de sa contemplation, ce fruit qui est son Verbe et son Fils.